Le journal est présenté par Ilan Malka.
Bonsoir à tous. La cellule terroriste qui est derrière les attentats de Barcelone et de Cambrils est-elle en voie de démantèlement? La police nationale espagnole affirme que oui, mais la police de Catalogne, elle, est plus réservée. Nous ferons le point avec Pierre Chaperon. Le conducteur de la fourgonnette de Barcelone est, lui, toujours recherché. L'État islamique affirme être derrière une autre attaque européenne qui, pourtant, dans un premier temps, n'avait pas été perçue comme un attentat. Il s'agit d'un homme qui a blessé 8 personnes au couteau en Sibérie ce matin. Il a été abattu par les forces de police. Au Venezuela, l'opposition se sent de plus en plus muselée. L'ex-procureur général Luisa Ortega, très anti-Maduro, s'est réfugié en Colombie. Les pouvoirs du Parlement ont été confisqués par l'Assemblée constituante. Comment cette opposition peut donc aujourd'hui réagir? Nous aurons des éléments de réponse avec Natalia Brandler, directrice du groupe d'études politiques sur l'Amérique latine. Nous évoquerons également un festival musical qui se déroule en Isère. Il s'agit du festival Berlioz à Côte-Saint-André, qui est la ville de naissance du compositeur. Des doutes et des certitudes dans l'enquête en Espagne sur les attentats de Barcelone et de Cambrils. Le conducteur de la camionnette qui a semé la mort sur les Ramblas est toujours en fuite pour le moment. La police a par ailleurs arrêté 4 suspects âgés de 21 à 34 ans en lien avec les deux attaques. La cellule de 12 terroristes est-elle en voie de démantèlement? Sur le sujet, les différentes autorités ont bien du mal à communiquer d'une même voix. Pierre Chaperon.
La cellule djihadiste a-t-elle été démantelée ou non? C'est à cette question que tentent depuis quelques heures de répondre les enquêteurs. Pourtant, pour le ministre de l'Intérieur espagnol, Juan Ignacio Zoido, la réponse est claire. Le commando qui a attaqué Barcelone et Cambrils n'existe plus. La police catalane, quant à elle, est plus nuancée. Dans une communication, elle se laisse le temps de répondre, manière polie de contredire l'exécutif madrilène. Surtout qu'elle est toujours à la recherche d'un Marocain d'une vingtaine d'années soupçonné d'avoir pris part aux attaques. Il aurait loué une Kangoo blanche. Kangoo qui depuis aurait été retrouvé à Barcelone. Quoi qu'il en soit, l'enquête continue et elle semble se concentrer sur la commune de Ripoll, à 1h30 de route au nord de Barcelone. C'est là que 3 des 4 suspects arrêtés pour le moment ont été trouvés.
Par ailleurs, aujourd'hui, l'organisation État islamique a revendiqué les 2 attentats meurtriers en Espagne. Elle n'avait au départ revendiqué que celui de Barcelone et en fin de matinée, elle a également revendiqué celui de Cambrils. L'État islamique revendique également l'attaque qui s'est déroulée donc ce matin en Sibérie. Ce sont 8 personnes qui ont été blessées à coups de couteau. Dans un premier temps, les services de sécurité russes avaient semblé écarter la piste du terrorisme, mais l'EI a donc signé l'attentat dans un communiqué diffusé par son organe de propagande, Hamak. Précision sur place de Jean-Didier Revoin.
Le flou semble régner après l'attaque au couteau dont 7 personnes ont été victimes dans la ville de Sourgout, dans l'Oural, à 2900 km à l'est de Moscou. Il était environ 11h20, heure locale, lorsqu'un individu s'est mis à attaquer des passants à l'aide d'un couteau dans une rue de la ville. D'après les agences de presse russes, les forces de l'ordre sont intervenues rapidement, mais elles ont été contraintes d'abattre l'assaillant qui a résisté à son interpellation. Quant aux victimes, dont 2 sont dans un état grave, selon un communiqué de la région de Cantimansi, elles ont toutes été acheminées à l'hôpital afin d'y recevoir les soins appropriés. Dans un premier temps, l'agence TASS a fait savoir que les enquêteurs privilégiaient la piste psychiatrique, ce qui n'a pas manqué de faire réagir. L'opposant Alexei Navalny s'est exclamé sur Twitter « Un homme qui court avec un couteau et qui essaye de tuer un maximum de gens, qu'est-ce que c'est si ce n'est un attentat ?» Les faits lui ont donné raison puisque quelques heures plus tard, l'organisation djihadiste État islamique a revendiqué l'attaque via Hamak, son organe de propagande. À Sourgout, les mesures de sécurité ont été renforcées, un centre commercial proche du lieu de l'attaque a même été évacué et le maire de la ville a appelé les habitants à garder leur calme, assurant que la police contrôlait la situation. Pour l'heure, les services de police affirment avoir identifié l'auteur de cette attaque. Il s'agit d'un homme né à Sourgout en 1994. Par ailleurs, les forces de l'ordre continuent à enquêter sur le profil de l'assaillant pour déterminer les raisons qui l'ont poussé à attaquer des passants.
Un scénario similaire à celui de la Russie s'est déroulé en Finlande. Même chose, les autorités avaient au départ écarté la piste terroriste, mais finalement, elles y sont revenues. C'est un demandeur d'asile de 18 ans qui a donc tué hier 2 personnes et en a blessé 8 autres. Selon la police, il voulait s'en prendre à des femmes, mais des hommes ont été blessés après avoir tenté de défendre les premières victimes. La police a arrêté le suspect quelques minutes après l'attaque. Aucune organisation n'a revendiqué cette attaque pour le moment. À noter également qu'une grande marche contre le terrorisme s'est déroulée aujourd'hui au Burkina Faso. Près 1 millier de personnes ont marché en silence à Ouagadougou pour dire non à la barbarie. C'est dans cette ville qu'un attentat contre un café-restaurant a fait 19 morts le week-end dernier. Je veux remercier Steve Bannon pour ses services. Il a rejoint la campagne pendant ma candidature contre Hillary Clinton, la crapule. Ça a été formidable. Merci S. Le tweet est bien sûr signé de Donald Trump. Le président congédie ainsi son sulfureux conseiller proche de l'extrême droite américaine. Quelles conséquences ce départ peut-il avoir sur la politique du président américain ? Élément de réponse avec notre correspondant à Washington, Marco Walter.
Le Time Magazine l'avait appelé le grand manipulateur, Steve Bannon, l'homme qui faisait la une et parfois de l'ombre au président. Il était le visage du America First, du message isolationniste, anti-immigration et nationaliste qui a permis à Donald Trump d'accéder au pouvoir. À peine démis de ses fonctions, Steve Bannon n'a d'ailleurs pas tardé à reprendre son combat, il veut partir à la guerre. Hier soir déjà, il assistait à une conférence de rédaction du magazine populiste et ultra-conservateur Breitbart News. « Maintenant que je suis libre, dit-il, j'ai à nouveau mes mains sur mes armes », tout en regrettant à demi-mot la dérive de la politique de la Maison-Blanche. Si la nouvelle de son départ a été accueillie par une salve d'applaudissements et des cris de joie à la Bourse de New York, tous se demandent maintenant qui sera le prochain. Les jours semblent notamment compter pour le très médiatique Sébastien Gorka, assistant de Donald Trump, un homme qui dit des musulmans qu'ils sont les ennemis du pays. Car l'éviction de Steve Bannon n'a pas encore suffi à faire retomber la polémique sur le drame de Charlottesville. La NAACP, une puissante organisation de défense des droits civiques, estime que le départ d'un membre clé de l'administration ne peut effacer les mots du président, des mots qui cautionnent le terrorisme intérieur, les néo-nazis et les suprémacistes blancs. Enfin, de son côté, Bernie Sanders, le candidat malheureux à la primaire des démocrates à la dernière présidentielle, a réagi sur Twitter. Le problème n'a jamais été seulement Steve Bannon, le problème a été et sera toujours Donald Trump.
Une nouvelle manifestation de l'extrême droite américaine annoncée aujourd'hui. Elle est censée démarrer dans les minutes qui viennent dans les rues de Boston, dans le Massachusetts. Quelques centaines d'activistes de ce qui est appelé l'alt-right, la droite alternative, sont donc attendus. Ils veulent défendre leur droit à la liberté d'expression. Il y aura également des contre-manifestants antiracistes. Environ 500 policiers sont déployés. Plusieurs artères de la ville sont fermées. Les armes de toute nature sont interdites. Il s'agit bien sûr d'éviter une nouvelle tragédie du type de celle du Rassemblement de Charlottesville dans laquelle une jeune femme a perdu la vie. Les pays d'Amérique latine réunis au sein du Mercosur dénoncent ensemble d'une même voix les agissements de la nouvelle assemblée constituante mise en place au Venezuela par le pouvoir de Nicolas Maduro. Hier, cette constituante s'est arrogée le pouvoir législatif au détriment de l'Assemblée nationale où l'opposition est majoritaire. Comment cette opposition peut-elle donc aujourd'hui se faire entendre ? On écoute à ce sujet Natalia Brandler, directrice du GESPAL, le groupe d'études politiques sur l'Amérique latine.
En ce moment, bien sûr, il y a une grande confusion, surtout dans la population, parce que l'opposition, elle avait eu confiance qu'avec les protestations pacifiques dans les rues, ils auraient pu peut-être arriver à une table de négociation. Mais le gouvernement, le régime, il a voulu imposer cette assemblée constituante. Et donc maintenant, l'opposition se voit en face d'une situation de comment on peut agir contre une dictature. Ils sont en train de chercher de soutien de la communauté internationale. Donc en ce moment, c'est une situation vraiment difficile pour l'opposition, mais qui se maintient unie dans le but de chercher à s'opposer à ce qui a été vraiment, c'est un coup d'État qui a donné cette Assemblée nationale constituante. Comment faire une opposition pacifique, démocratique, plurale, qui est confrontée à une dictature? Je pense que les prochains jours vont être très importants du point de vue du soutien de la communauté internationale qui veut apparemment répondre à cette situation pour soutenir l'opposition vénézuélienne.
Propos recueillis par Maïwenn Bordron. Les députés de l'opposition sont actuellement réunis en session spéciale au Parlement vénézuélien. Ils rencontrent les représentants de 18 pays étrangers. Pas de référendum finalement au Mali pour changer la constitution. Le président Ibrahim Boubacar Keïta renonce finalement à son projet. Il devait s'agir de la première révision constitutionnelle au Mali depuis 25 ans. Elle devait mettre en œuvre certains engagements signés entre le gouvernement et l'ex-rébellion Touareg. Dans une allocution l'opposition. Le chef de l'État a donc indiqué que cette consultation, très rejetée par l'opposition, n'aurait finalement pas lieu. L'opposition est descendue dans la rue pour célébrer ce qu'elle considère comme une victoire. Aujourd'hui au Nigeria, le retour du président Muhammadu Buhari. Il vient de revenir sur place. Il avait quitté le pays depuis 3 mois pour raisons médicales. Il avait dû se faire soigner à Londres pour un traitement dont la nature est restée secrète. Il doit s'exprimer lundi prochain dans une allocution à 7h du matin. Selon la présidence du pays, il doit remercier les Nigérians pour leur soutien durant cette convalescence. Il avait été élu, on le rappelle, il y a 2 ans sur un programme axé sur la lutte contre la corruption. En Chine, cela faisait 1 mois qu'elle n'avait plus donné signe de vie. Liu Xia vient de réapparaître. Elle est, on le rappelle, la veuve de Liu Xiaobo, le prix Nobel de la paix opposant au régime, décédé le 13 juillet dernier. Elle donne donc de ses nouvelles dans une vidéo d'une minute diffusée sur la plateforme YouTube. Depuis les funérailles de son mari, elle est introuvable. Ni sa famille, ni ses amis ne parviennent à entrer en contact avec elle. Son avocat accuse le pouvoir chinois de la maintenir en détention. À Shanghai, Angélique Forger.
Vêtue d'un t-shirt et d'un pantalon noir, cigarette à la main, Liu Xia paraît très affaiblie. Elle parle tout doucement, assise sur un canapé blanc, dans une pièce qui ressemble à un salon. Devant elle, une tasse de thé encore fumante. Je suis en convalescence, en province, à l'extérieur de Pékin. Je vous demande de me laisser du temps pour faire mon deuil. La dernière apparition de Liu Xia datait du 15 juillet dernier. On la voyait sur une photo diffusée par les autorités chinoises, dispersée en mer les cendres de son mari. Depuis, plus rien. Début août, dans une plainte déposée à l'ONU, son avocat accusait le pouvoir chinois de la maintenir en détention. Je vous reverrai un jour en pleine forme. Les médecins ont fait de leur mieux lorsque Xiaobo était malade. Et Xiaobo abordait la vie et la mort avec beaucoup de distance. Je dois donc retrouver mon équilibre et quand j'irai mieux, je pourrai à nouveau être avec vous tous. Impossible pour l'heure de déterminer l'endroit ni les conditions dans lesquelles cette vidéo a été enregistrée. Pour l'un de ses proches, il n'y a pas de doute, cela s'est fait sous la contrainte.
Angélique Forget donc à Shanghai. En France, de nouvelles tensions entre des policiers et des habitants d'Aulnay-sous-Bois. Tout est parti d'un contrôle qui a mal tourné. Hier, un jeune homme a refusé de répondre aux questions des agents et a donné un coup de poing à l'un d'eux. Prenant la fuite, il a été poursuivi par les agents. Une policière est restée sur place pour sécuriser le véhicule. À son tour, elle a été prise à partie par une trentaine de personnes qui ont essayé de lui porter des coups et de dérober les armes qui se trouvaient dans la voiture. Un individu a réussi à subtiliser un lanceur de balles de défense. Il a tiré contre le véhicule des policiers. Il a ensuite été interpellé et placé en garde à vue. On se souvient que c'est déjà à Aulnay-sous-Bois qu'avait éclaté la fameuse affaire Théo. C'était en février dernier. Gros plan pour finir sur le festival Berlioz qui a commencé hier et qui se déroule jusqu'au 3 septembre dans l'Isère à la Côte-Saint-André, ville natale du grand compositeur. Il s'agit de la 24e édition de ce festival. Au programme de grands maestros comme François-Xavier Roth, les meilleurs orchestres symphoniques, dont celui de Radio France. Le festival va notamment exaucer l'un des rêves de Berlioz, le concert shakespearien que le musicien n'avait pas eu les moyens de monter de son vivant. Véronique Pueyo.
Berlioz adorait Londres, il y a rencontré le succès que la France lui refusait, il y a découvert aussi la musique baroque de Purcell et de Handel, et puis il avait une véritable passion pour l'œuvre de Shakespeare. Le maestro François-Xavier Roth va donner vie ce soir au rêve inassouvi du compositeur.
C'est un vrai plaisir en même temps que une sorte de rêve qu'on arrive à exaucer de ce pauvre Berlioz qui rêvait de ce concert avec tous ses thèmes shakespeariens. C'était un théâtre qui lui parlait profondément, il a été extrêmement ému de voir ces pièces de Shakespeare et donc il a composé des musiques et c'est ce concert qu'on va donner avec Roméo Juliette, des extraits d'Hamlet, d'Ophélie.
Et François-Xavier Roth dirigera le jeune orchestre européen Hector Berlioz. Le récitant sera le comédien Daniel Mesguich. Autre temps fort le 26 août avec une grande fête populaire au château néo-gothique de Pupetière en Isère. Bruno Messina, le directeur du festival Berlioz.
Et dans ce lieu, on va faire les fireworks, c'est-à-dire les musiques avec feu d'artifice de Handel. Le point d'orgue d'une journée où il y aura eu de la cornemuse, où il y aura eu des musiques irlandaises, où il y aura eu un salon romantique, mais aussi des jeux pour les enfants parce qu'on aime avoir un accès à la musique classique qui soit populaire, qui permette aux familles de venir. Vous savez, le grand concert du soir, ce jour-là, par exemple, on sera assis dans l'herbe.
Toute la programmation est à retrouver sur le site festivalberlioz.com. C'est jusqu'au 3 septembre à la Côte-Saint-André.
Et ce concert shakespearien qui a donc été imaginé par Berlioz se joue donc ce soir précisément à 21h. On jette un œil au ciel de demain matin. Il fait beau à peu près partout. Alors c'est gris en Bretagne, un peu nuageux sur la moitié nord. De façon générale, globalement, le soleil est quand même présent sur l'intégralité du territoire. Les températures de demain matin partent de 18 degrés en Seine-Maritime et elles montent jusqu'à 30 degrés dans les Pyrénées-Orientales. Cette édition a été préparée avec Moussa Adam. Elle a été réalisée à la technique par Myriam Guillot.